Vous écoutez l'épisode 107 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Dans cet épisode, nous vous dévoilons les fonctionnalités révolutionnaires de la dernière mise à jour de Chrome et de Chrome OS. Alors, des améliorations spectaculaires de la performance, des fonctionnalités innovantes pour la productivité et de nouvelles options de personnalisation vous attendent dans cette mise à jour incroyable. Vous découvrirez les astuces et les conseils les plus récents pour tirer pleinement parti de vos appareils. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simple passionné de technologie, vous allez redécouvrir une nouvelle façon de travailler. Enfin, ne manquez pas cette occasion de vous tenir au courant des dernières nouveautés de Chrome OS et de Chrome en vous abonnant à notre chaîne YouTube et au CKB Show. Vous serez certain d'être les premiers à tout savoir sur Chrome et Chrome OS. Et si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire en devenant un ou une mécène sur patreon.com/mychromebook. Alors Patreon, patreon.com/mychromebook. Et en nous soutenant, vous aurez accès à des avantages spéciaux comme par exemple une expérience sans publicité sur notre site web mychromebook.fr, un salon Discord dédié et réservé aux membres de notre communauté Patreon, des contenus exclusifs également réservés aux mécènes de Patreon, comme des articles, des vidéos, bref, des interviews et naturellement une reconnaissance spéciale. Bien sûr, je vous citerai dans chacun des épisodes. Si vous avez participé et soutenu mychromebook.fr, il est évident qu'on va faire une petite place dans le CKB Show. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de Cyril Carteret, formateur Google Workspace, ingénieur pédagogique et fondateur de fastlearner.fr. Bonsoir Cyril, comment vas-tu ?
Ça va très bien Nicolas, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de ton invitation Nicolas, ça me fait super plaisir.
Et moi donc, depuis le temps qu'on en parle, j'avais vraiment envie de te voir à nos côtés sur le CKB Show. Alors, je suis très heureux de t'avoir. Et alors, moi, je te connais depuis maintenant bien longtemps. Par contre, nos auditeurs ne savent peut-être pas qui tu es. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes pour que, qu'ils apprennent à savoir les bienfaits que tu as à être dans cet épisode ?
Eh bien, oui, tout à fait, je peux me présenter. Déjà, je suis de la même région que toi, hein. Je suis originaire de Vesoul, donc on est de Franche-Comté, même si j'ai migré en Normandie dernièrement. Donc, je suis formateur sur les applications Google, principalement pour les entreprises qui sont passées sur Google Workspace. Et je me nomme un petit peu dresseur de souris et chasseur de clics. Je trouve ça un peu plus sexy que formateur, parce que j'apporte de la productivité au quotidien avec les outils Google à coup de raccourcis clavier, d'astuces, d'utilisation des outils en eux-mêmes. Et donc, voilà, je sillonne la France et également à distance et également en e-learning. C'est mes trois canaux de distribution. J'ai aussi une chaîne YouTube hein, pour ceux qui nous regardent. J'ai une petite chaîne YouTube qui marche bien depuis 4-5 ans maintenant. Et puis, on a démarré sur TikTok l'année dernière avec bientôt 30 000 abonnés. Donc, ce n'est pas le même public, mais ça marche vraiment bien, ces deux réseaux sociaux. Voilà pour me présenter en quelques mots.
Alors, on mettra, tiens, d'ailleurs, tu nous donneras tous les liens qu'on puisse rajouter dans les notes de l'émission. Hein. Vous retrouvez d'ailleurs tous les liens dans les notes de l'émission de tout ce qu'on va dire ce soir. Et allez voir, vous allez voir, il y a des tutos qui sont exceptionnels. Moi, j'aime bien tes fins d'année où tu nous fais un petit cadeau tous les jours jusqu'au 25, je crois, de
décembre. Ouais, on fait un petit calendrier de l'Avent comme ça tous les ans. Et puis, en moyenne de publication, on est à 2, 3, 4 vidéos par mois en fonction du temps à consacrer et puis de l'activité évidemment business aussi.
Voilà, donc allez voir, allez jeter un œil, vous apprendrez tout, vous apprendrez à dompter aussi Google Docs, Google Sheets, Slide et compagnie, vous verrez, c'est vraiment très 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 intéressant. Alors on va faire un petit coucou à l'Assemblée, hein. Bonsoir Mister Robot, bonsoir Didier, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Edelweiss, bonsoir Alain, bonsoir tout le monde, bienvenue à vous tous. Alors n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si vous êtes présent sur YouTube en live, posez vos questions, on sera très heureux d'y répondre. Cyril a sûrement plein de choses à vous apprendre, sûrement plus que moi d'ailleurs, sur ces items-là. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de lui en parler et on répondra, on fera une petite fac au fur et à mesure si les questions sont pertinentes à ce moment-là. Donc on va attaquer directement, enfin je pense que tu es prêt, est-ce que vous êtes prêt ? On va attaquer sur tous nos programmes, donc on va parler ce soir de Chrome OS 112, de Chrome 112, parce qu'il y a eu énormément d'évolutions dernièrement sur ce système d'exploitation. Alors Chrome OS, je vais revenir dessus, Chrome OS pour toi Cyril, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises déjà au quotidien ? Parce que je vais te parler de plein de choses, mais est-ce que toi, tu l'utilises ?
Alors, j'utilise Chrome au quotidien, ça c'est sûr. J'ai deux équipements, un qui est au bureau, qui est plutôt une grosse machine de guerre pour du montage vidéo, donc qui est sur PC. J'ai fait une petite aventure externe. Mais en formation, en externe, je suis tout le temps accompagné de mes deux, trois Chromebooks. J'en ai un tout petit, mais principalement celui que j'utilise là, mon petit Acer Chromebook Spin 514.
Un très bon
Et vous?
produit. Il a fait beaucoup d'émules, ce produit-là, d'ailleurs. Tiens, il y a Jean-Luc qui dit qu'il suit tes tutos et qu'ils sont très bien. Donc, c'est déjà un premier. Merci, merci Jean-Luc. Hein, c'est toujours
Merci à
sympa.
lui.
Alors, on commence par une chose qui est intéressante, hyper intéressante, qui va te plaire, Cyril, si tu ne l'as pas vue. Je dirais que je serais même très heureux que tu ne l'aies pas vu, cette modification-là. Parce que, je te mets dans le contexte, un utilisateur lambda qui, tu sais, tu dois te connecter avec ton compte Google pour pouvoir accéder à ta session Chrome OS. Et malheureusement, parfois, on oublie son compte, son mot de passe de son compte Google.
Ça arrive.
Ça arrive, c'est pas grave, on peut le récupérer. Il y a des solutions, et d'ailleurs, j'imagine que tu as bien quelque chose qui nous explique comment le récupérer, donc allez voir, hein. Mais si tu n'y arrives pas, si tu veux restaurer aujourd'hui ton Chromebook pour récupérer l'accès simplement à ta session, ça passe par, en gros, un power wash. Donc on vide la totalité de la mémoire de son Chromebook pour repartir à zéro finalement. Et ça, c'est un petit peu gênant quand on n'a pas bien compris l'utilité d'un Chromebook. Parce qu'un Chromebook, tu le sais, c'est principalement, hein, du stockage dans le cloud. On ne stocke pas nos données personnelles importantes sur notre espace de stockage, dans la rubrique téléchargement. Parce que, ben, évidemment, si on le perd, on perd tout. Et ce n'est pas vraiment le principe de Chrome OS. Eh bien, Google a entendu les cris éplorés de tous ces utilisateurs qui perdaient leur mot de passe. Et il vient de déployer dans Chrome OS 112 une fonctionnalité qui est exceptionnelle, qui est la récupération de mot de passe. Eh oui,
Incroyable.
incroyable, incredible. C'est vrai, incroyable. Tu vas pouvoir récupérer ton mot de passe. Après trois mauvaises saisies ou carrément un oubli. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vas donc récupérer ta session telle quelle, avec tous les fichiers que tu as dedans. Et ça évitera que certains perdent leur thèse de plusieurs mois de travail dans leur Chromebook, tes vidéos didacticielles aussi, tu vois. Là, tu vas pouvoir le récupérer. Mais il y a une chose à faire hyper importante. La récupération de mot de passe ne s'active pas par défaut.
C'est
Donc, c'est
ça.
pour ça qu'il faut en parler, c'est super important. Il faut simplement aller dans les paramètres de Chrome OS, dans les paramètres sécurité et confidentialité, et dans l'écran de verrouillage, tu te connectes, hein, tu vas mettre ton mot de passe de ton compte avant que tu l'aies oublié, donc fais-le dès maintenant. Si
Oui.
tu m'écoutes là, maintenant, en podcast ou sur YouTube, tu peux le faire en simultané. Active-le. Une fois que tu as ouvert ta session et ton verrouillage, tu vas pouvoir cocher une petite case, enfin pas cocher, c'est un commutateur que tu peux déplacer de gauche à droite pour activer la récupération de données locales. Et là, c'est miraculeux, tu ne perdras plus jamais rien sur ton Chromebook, même si tu oublies ton mot de passe. Qu'est-ce que tu penses de ça, Cyril? Est-ce que ça peut être utile à des utilisateurs que tu croises de temps en temps?
Mais écoute, tous les jours, il n'y a pas un seul stage qui commence sans quelqu'un qui ne se dise pas, tiens, je ne sais plus mon mot de passe. Et ce qui m'interpelle toujours, c'est quelqu'un qui dit, je ne sais plus mon mot de passe. Comme si elle n'avait qu'un seul mot de passe sur tous
Oui.
ses comptes dans le nuage. Donc moi, je donne deux conseils. Déjà, effectivement, de ne pas avoir un seul mot de passe pour tous les comptes. On ne cesse de le répéter, mais c'est très important. Et moi, très rapidement, je suis passé aux phrases de passe. C'est-à-dire, j'utilise plus de mots de passe, mais des phrases de passe. Ça fait partie aussi de mes méthodes pédagogiques. On retient mieux les histoires en formation. Eh bien, c'est pareil pour les mots de passe. On retient plus facilement une phrase ou un dicton ou quelque chose dans lequel on va prendre les premières lettres. Et c'est beaucoup plus facile à retenir et c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste. Donc déjà, n'ayez pas qu'un seul mot de passe, ayez des phrases de passe. Et je pense que c'est une bonne option qui va permettre à beaucoup de gens d'éviter, avant d'atteindre le power wash, de faire un power wash sans perte du mot de passe. Enfin, voilà, c'est la dernière étape ultime avant le power wash.
C'est ça, effectivement, mais une très très bonne idée, hein. D'ailleurs, ce que tu nous dis avec phrase
La phrase
passe,
de passe.
pardon, oui, là, c'est un conseil que donnait Edward Snowden. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était le premier conseil qu'il a donné après avoir fait fuiter toutes les données de la NSA, je crois. Donc quelque chose de plutôt intéressant. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, je l'utilise par exemple pour un compte principal maître parce que j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Donc, j'en connais qu'un seul et tous les autres sont stockés. Et mon mot de passe principal, celui du mot de passe maître, donc, est une phrase passe. Et j'ai utilisé les paroles d'une chanson. Donc, tu vois, c'est facile à retenir. Et je la change parce que j'aime des chansons.
Mais ne chante pas. Plus.
Ah bon, d'accord. Pourtant, j'ai vu dans l'assemblée, on me demandait si je chantais ce soir. Donc,
Ouais, mais si tu chantes, Nicolas, tu vas dévoiler ton mot de passe. C'est ça le problème.
C'est ça. Ah oui, effectivement. Bien joué. Donc, une solution, à mon sens, très intéressante. Donc, à activer. En gros, ça devrait être activé par défaut par Chrome OS, mais ils ne le font pas. Donc, allez l'activer directement. Ça, c'est la première modification qui est arrivée avec Chrome OS 112, mais quand même l'une des plus intéressantes à mon sens. C'est sûr, c'est pas très joli. Hein. On parle de mot de passe, hein. On n'est pas sur quelque chose de très, fondamentalement très beau. Alors du coup, je vais contrebalancer directement avec la refonte graphique des paramètres rapides. Les paramètres rapides, si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai appelé ça à un moment le menu d'état en bas à droite. Quand tu cliques sur l'horloge de ton Chromebook, de Chrome OS, tu as les paramètres rapides qui apparaissent, donc Bluetooth, Wi-Fi, je t'en passe. Hein. C'était plutôt sympa, ça avait déjà évolué dans le temps, mais c'était un petit peu loin de tous les outils Google. Sur un smartphone, si tu as Android 13 par exemple, tu es sur un truc qui s'appelle le Material View, une interface graphique plutôt ronde, plutôt pastel en termes de couleurs, avec la capacité d'aller chercher une colorimétrie en fonction de ton fond d'écran, tout ça donc.
Et on vient bien de le sentir passer sur toute la suite Google Bureautique, hein, Docs, Sheets et Slides, tout est passé en Material View là.
Ouais, et d'ailleurs, on va en parler pour Chrome également un peu plus tard, mais effectivement. Et la refonte graphique est arrivée dessus, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, si vous ne l'avez pas, il faudra activer un flag. Je vous le mets dans les notes de l'émission. Je peux le copier pour ceux qui nous suivent en live. Allez, hop, je vous le mets, tac. Vous allez et vous taperez ce flag dans Chrome, /flags, et vous chercherez donc le flag. Et ça vous permet donc, le faites pas tout de suite, puisqu'il faut redémarrer le Chromebook. Donc là, vous allez éteindre l'appareil, ce serait dommage. Et vous allez louper la suite. Mais donc la refonte se fait, c'est super joli, on est sur quelque chose d'hyper simple à utiliser et il rassemble les choses, donc c'est des petites pastilles qui permettent vraiment de simplifier la lecture du menu d'état rapide. Je ne sais pas si tu passes souvent par le menu d'état rapide d'ailleurs, Cyril.
Régulièrement, c'est un peu le chemin le plus accessible en bas à droite pour activer le Bluetooth, le Wi-Fi chez un client ou caster, donc c'est toujours très accessible ici.
Ouais. Et d'ailleurs, avec cette refonte-là, Google sépare aussi les notifications. Parce que jusqu'à présent, quand tu ouvrais le menu d'état, le menu des paramètres rapides, pardon, les notifications se basculaient au-dessus. Ce qui était, pour moi, un peu pénible parce que j'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que je me retrouvais avec une liste qui allait jusqu'au-dessus de mon écran. Et malgré tout, ça se tassait. Et je finissais par ne plus rien voir du tout sur l'écran. Là, maintenant, il le déplace à gauche de l'horloge. Donc, tu vas avoir ta petite notification qui va apparaître juste à gauche. Ce qui te permet de descendre un petit peu, d'avoir une meilleure lisibilité de tes notifications. Donc, on sépare les deux. On a quelque chose de
plus. Ça fait deux panneaux qui se superposent. Et en fait, on peut réduire l'un des panneaux ou l'autre. Et ça permet de réduire les paramètres d'accès rapide et de voir plus de notifications au-dessus.
Ouais. C'est ça, et c'est vraiment pratique. Hein. Tu l'avais déjà activé le flag ou pas du tout ?
Alors moi, je n'ai pas activé le flag, mais du coup, je l'ai en direct sur mon Chromebook. Donc je pense qu'il est...
Top, puisque certains ne l'avaient pas encore, donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant le flag. Et je pense que il faut, si vous l'avez pas, utilisez-le parce que c'est vraiment super simple. Et c'est moi, ça m'apporte beaucoup au quotidien, beaucoup plus de fluidité d'interaction avec mon appareil. Je suis en train de redémarrer mon autre Chromebook. Je vais essayer de vous partager en même temps la partie présentation. Comme ça, c'est, ouais, l'interface, ça parlera plus à ceux qui nous regardent. Ceux qui ne nous regardent pas, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout également dans les notes de l'émission, donc il ne faudra pas hésiter à aller jeter un œil, il faut cliquer, hein, n'hésitez pas à cliquer.
Si je peux ajouter quelque chose, Nicolas, les notifications qui vont s'ajouter au-dessus, donc dans le nouveau panneau, vous allez avoir aussi la possibilité de réduire chaque titre de notification et de les déplier pour avoir la petite description, donc ça c'est pratique aussi.
Donc là, je l'ai montré pour ceux qui sont en live. Donc là, on voit en bas à droite donc toutes les modifications qui sont apportées. Et ils ont rajouté un petit truc hyper intéressant également, c'est que quand tu appuies sur le bouton Power, cette fois, tu peux, alors c'est petit, mais tu peux redémarrer ton Chromebook. Tu n'es pas obligé de l'éteindre puis de le redémarrer. Tu cliques dessus et ça le redémarre automatiquement. Et tout a été modifié. Hein. L'interface de gestion est très, très rapide, très intéressante. On peut, en un clic, alors Alors là, moi, je l'utilise avec mon doigt. Hein, donc, pour vous dire que ça marche plutôt bien. C'est plus simple, d'ailleurs, de l'utiliser avec le doigt. Et on voit la partie tactile de Chrome OS qui est en train de, petit à petit, prendre place sur son Chromebook. Et c'est vraiment super intéressant. Et les notifications, bon, on les a juste à côté. Vous voyez, j'en ai quelques-unes déjà et j'en ai déjà effacées. Mais on en retrouve beaucoup, beaucoup. Et puis, on les efface comme classique sur un smartphone. Hein.
Sur un smartphone.
Donc, voilà. Donc un truc super sympa je pense, à vous de nous dire ce que vous en pensez également, n'hésitez pas à rebondir dessus dans les notes de l'émission, si jamais dans les commentaires, si vous avez des choses hyper intéressantes et que vous voudriez peut-être voir en plus. On continue toujours sur Chrome OS 112, une autre évolution, on en avait parlé d'ailleurs dans le précédent épisode du CKB Show avec Alexandra Coutelet, on vous parlait de Screencast. Screencast, c'est en gros, pour faire simple, un logiciel de capture d'écran vidéo qui te permet de partager des vidéos que tu aurais fait sur ton appareil pour mettre en valeur, en évidence, certaines fonctionnalités. Et un peu comme finalement ce que tu fais dans tes formations distancielles, pas distancielles, dans tes formations
e-learning,
voilà, merci, où comme Loom, tu vas avoir ton visage qui apparaît dans une bulle en bas, à droite, à gauche, enfin tu le paramètres comme tu veux. La différence, peut-être, tu me diras, c'est que Screencast va te permettre d'entourer des choses. Si tu as un stylet, c'est vraiment super pratique, hein, t'entoures les éléments, tu peux mettre des carrés, des ronds, tu peux mettre en évidence une partie de la vidéo pendant que tu es en train de faire la vidéo. Et l'intérêt qui est hyper intéressant, c'est la transcription audio. Tu parles, ça va te générer automatiquement ton texte, donc peut-être une solution hyper intéressante pour faire un article derrière, enfin une description textuelle. Et l'avantage, c'est que dans cette nouvelle version, d'une part, c'est passé en français, bonne nouvelle pour nous les francophones, donc ça veut dire que ça transcrit le texte en français. Alors, je peux pas vous le montrer parce que moi, je l'ai pas encore, mais je sais que dans l'assemblée, j'ai eu Jean-Luc tout à l'heure qui me disait que sur son Spin 713 en version 112, il était donc passé en version française. Et cette fois, les vidéos sont stockées sur le drive et lisibles avec n'importe quel appareil sans avoir besoin de Screencast. Parce que avant, si tu n'avais pas un Chromebook et Screencast, tu ne pouvais pas la lire. Donc, c'était un petit peu...
Ça fait un format de sortie qui est standard et ça, c'est bien pratique. Et ouais. Pour rebondir sur les annotations, c'est vraiment un gros plus par rapport à Loom ou toutes ces autres applications de capture d'écran. Il y en a beaucoup qui existent. Ne sont pas toutes fiables, mais ça existe. Le fait de pouvoir ajouter les annotations vraiment en live, ça va dynamiser vraiment les vidéos. Moi, je fais beaucoup de post-production pour ajouter ce type de légende. Donc, ça peut être vraiment intéressant. En mode tactile, ça peut vraiment donner du dynamisme, que ce soit pour faire des vidéos asynchrones ou pour faire des vidéos synchrones, hein, quand on est en classe virtuelle directement avec des stagiaires ou avec des élèves. Et puis, la transcription, tu parlais de récupérer ça pour faire des articles. Moi, je pense aussi à toutes les personnes en situation de handicap qui auraient besoin d'accéder au contenu de manière visuelle. C'est la traduction et la transcription. En ce moment, Google, ils mettent le paquet et c'est vraiment, vraiment top.
Ouais, et ça marche très très bien. Hein. Je l'expliquais déjà, je l'utilise régulièrement dans l'enregistreur vocal qui est présent sur les Pixel Phone, où ça retranscrit automatiquement et ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de générer du texte, du contenu et de le remodifier par la suite tout en parlant. Donc, parce que tu parles, c'est bien, mais après, il faut le retranscrire toi-même. C'est pas toujours simple. Donc là, je fais d'une pierre deux coups et je trouve ça vraiment super intéressant et super facile à utiliser. Hein. Vous l'avez vu, je vous ai montré un petit peu rapidement. En gros, tu cliques, tu fais register et tu enregistrement et puis c'est parti. Hein, c'est il y a plus rien à faire. Et Jean-Luc nous dit dans l'assemblée, Screen à la française est top pour présenter des petits tutos. Oui, effectivement, voilà, on est d'accord, on est tous d'accord avec ça. Tu nous diras peut-être qu'un jour, tu utiliseras plutôt celle-ci plutôt que Loom et compagnie sur tous les appareils, ça peut être intéressant d'avoir un retour par la suite.
J'irai tester dès demain Screencast.
Ok, si tu l'as en français, évidemment, hein, puisque tu ne pourras pas le lancer si tu ne l'as pas en français. On continue un petit peu d'ailleurs dans les enregistrements vidéo, puisqu'il y a des enregistrements vidéo qui sont possibles sur Chrome OS. Alors, sur tous les systèmes d'exploitation, tu as un petit truc pour faire des enregistrements vidéo. Hein. Mais sur Chrome OS, il est un petit peu plus poussé, à mon sens, quoique Windows est en train de faire une modification sur le bouton imprime écran. Ils sont en train de modifier la fonctionnalité imprime écran, et ça, c'est intéressant également. Donc, sur Chrome OS, il y a un raccourci qui est... Ah, toi, je sais jamais, je le fais tellement machinalement que je sais même plus lequel c'est.
Contrôle majuscule multifonctionnel.
Contrôle, Alt, multifenêtre, contrôle majuscule.
Contrôle majuscule multi-fenêtre.
C'est ça. Voilà. Et compte, merci. Merci. On voit le professionnel. Hein. On voit que c'est pas moi. Hein. Ça nous ouvre la boîte de capture d'écran. Donc, une boîte à outils où vous allez pouvoir. Je sais pas si je peux vous la montrer. Si, on peut la montrer quand même. On a une boîte, on peut faire une capture de photos, de vidéos. Et il y a une chose qui est hyper intéressante, c'est qu'on va pouvoir maintenant. C'est vraiment très petit, donc je suis désolé, vous le verrez pas bien. Mais on va pouvoir afficher les clics faits dans la vidéo. Typiquement, je suis certain que tu le fais déjà pour mettre en évidence l'endroit où tu dis à l'apprenant, il faut cliquer sur le bouton en haut à gauche. Et ben, avec ta souris, j'imagine que tu fais le même mouvement. Et quand tu cliques, il y a un petit truc qui le met en évidence. Et avec ça, c'est plutôt intéressant parce que quand tu vas cliquer, alors je sais pas si je peux le faire là. Ouais, non, je suis en mauvaise capture évidemment.
Tu sens en capture vidéo.
Ouais. Ouais, tac, capture vidéo, j'active, il est activé ici. Et si je lance la capture vidéo, en fait, on clique et tout simplement, dès qu'on va lui dire, clique à tel endroit, alors je vais cliquer en bas à gauche, tac. Alors, vous ne l'avez pas vu parce que c'est très, très discret, mais on le voit, on le voit discrètement. Alors, ce serait bien qu'on puisse le paramétrer d'ailleurs. Hein. Ça va venir.
Je pense que ça arrivera, effectivement, c'est ce qu'on appelle des effets de curseur. Et ouais. Il y avait déjà le fait de pouvoir mettre un anneau de couleur autour du curseur. Ça. Et moi, j'utilise beaucoup aussi le grossisseur de curseur. Donc, je mets un gros curseur rouge quand je suis en formation. Et puis, bon, faut éviter de, quand on veut montrer, on a notre cerveau qui veut aller plus vite que nos mains et on a tendance à faire des petits ronds avec la souris. c'est prohibé, hein, quand on fait du tutoriel, ce que ça donne le tournis. Mais le fait de pouvoir mettre en évidence, alors, dans des outils, là, pour l'instant, on a la petite vague. Donc, ça nous fait un petit halo autour du curseur. Mais bientôt, on pourrait avoir une sorte de loop où ça fait une petite vague. C'est-à-dire que ça va déformer un petit peu l'écran. C'est simplement pour attirer l'œil du spectateur et le rendre actif plus dans la vidéo. Donc, c'est top qu'ils aient rajouté ça. On sent qu'il y a le Google Education qui est derrière et qui a un besoin de produire des contenus asynchrones. Et c'est vraiment pas mal. C'est top.
Ouais, tout à fait. Et dans le même truc, ils ont même rajouté la possibilité d'enregistrer des gifs animés. Je m'en sers beaucoup dans mes tutos. Vous irez voir, ça m'amuse beaucoup. Ils sont un petit peu lourds pour l'instant, mais j'imagine qu'ils vont travailler sur le poids du gif animé. Parce qu'un gif de quelques secondes, des fois, genre, je suis à 7 mégas ou 10 mégas, ça pique un peu. Donc heureusement, il existe des outils pour simplifier ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Autre chose que ceux qui nous voient peut-être en live, on peut. Vous allez le voir en bas de l'écran, il apparaît désormais. Oh là là, attends, alors on va s'arrêter deux petites secondes.
On va s'arrêter.
On va s'arrêter deux petites secondes parce que Jean-Luc est ce soir déchaîné et on est obligé de le mettre en avant parce que Jean-Luc nous soutient. Alors déjà, Jean-Luc, je te le présente peut-être rapidement, Cyril, c'est l'un des deux modérateurs hyper importants du salon Discord. Donc allez sur le salon Discord si vous avez des questions sur Chrome OS, Chromebook, Chrome OS Flex, bref, un peu près tout. Il est juste, ils sont juste avec Didier Démentiel, les deux.
Ils sont des puits de science.
Ah oui, c'est ça, mais c'est une corde d'abondance de science. C'est jamais épuisé, c'est impossible. Et a priori, Jean-Luc est même à une corne d'abondance, mais avec de l'argent. Parce que à chaque épisode, et je t'en remercie, Jean-Luc, merci beaucoup, à chaque épisode du CKB Show, il nous soutient. Et là, il nous soutient avec un super sticker. Assez intéressant quand même. Rien que ça, Jean-Luc, je pense que tu le sais déjà, tu payes l'outil qu'on utilise avec Cyril là ce soir pour faire l'enregistrement, mais également, parce que j'ai changé notre système, la newsletter, pour info. Pour l'année. Hein, pour l'année. Merci Jean-Luc. En tout cas, c'est toujours bien. Donc faites comme Jean-Luc si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez via patreon.com/mycrombook. Ou alors, un super sticker. Merci Jean-Luc. Je te laisse afficher jusqu'à ce qu'il s'efface tout seul. ou qui est plus important encore, mais c'est énorme ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je ne sais plus ce que je disais, mais c'était génial. Merci.
On parlait du curseur et Didier parle de l'accélération vidéo également.
Qui va arriver effectivement, avec le WebGPU qui va arriver principalement en Chrome OS 113 pour améliorer les capacités sur Chrome. Juste pour la capture d'écran, il y a une chose qui est intéressante qui est apparue en même temps que le mouvement de sélection, le clic, c'est que maintenant quand tu utilises un raccourci clavier, que tu utilises une touche pour tes apprenants, en fait ils le voient apparaître en bas de l'écran. Alors pour ceux qui nous suivent, vous le voyez, je suis en train d'appuyer sur CTRL, ALT, je sais pas quoi, je regarde pas mon clavier.
C'est juste génial aussi.
Voilà, et ça permet de mettre en évidence ça. Alors, moi, je suis en mode en thème sombre. Je peux peut-être le passer en thème clair pour voir si ça donne quelque chose de plus lisible. Ouais, c'est un peu plus lisible en thème clair. Vous voyez, très simplement. Ah, je suis en train d'ouvrir le... bon, bah, vous l'avez vu. J'ouvre le terminal. Cross.
Voilà. Ça, tu vois, c'est génial l'affichage des raccourcis clavier. Enfin, moi, je suis très raccourci clavier. C'est pour moi un très bon moyen d'augmenter sa productivité et pas que avec Google, avec tout. On en parlera dans les coups de cœur en fin de session. Mais l'affichage des raccourcis clavier, c'est vraiment top parce que souvent, on te demande mais quel raccourci tu as fait ou comment tu as fait ci et comment tu as fait ça. Une souris, on la voit. Un raccourci, on ne le voit pas. Ouais. Et alors, je regrette peut-être qu'ils aient mis Maj à la place de Shift. Je sais qu'en français, on dit Maj. Il y a souvent une confusion ouais. avec les stagiaires entre Maj et Shift. Donc, ouais. Il faudrait qu'on puisse choisir le... Parfois,
ah, je pense qu'ils sont au début, tu vois. Ils sont au début de cette fonctionnalité-là, de ces fonctionnalités-là. Et on voit comment Chrome OS évolue de jour en jour. Et j'imagine que ça va vite changer. Typiquement, moi, le halo, le clic, je l'aimerais rouge. Enfin, une couleur qui pète, qu'on voit directement. J'aimerais plein de petites modifications, mais ça va venir. Et surtout que... on pourra en parler d'ailleurs dans les news Google. Google va... certainement aller très très vite sur Chrome OS dans les mois qui viennent. Je vous expliquerai pourquoi si j'y pense. Et oubliez pas de me le dire dans le chat si jamais vous voulez savoir pourquoi. Je l'ai pas mis dans la préparation. Je suis désolé.
la touche loop. Tu sais comment il l'appelle dans les raccourcis clavier quand tu fais apparaître la loop? Est-ce qu'il l'appelle tout? Est-ce qu'il l'appelle anything? Est-ce qu'il l'appelle loop?
Ah, c'est une bonne question. Bah tu sais quoi, on va le faire en direct et puis on va bien voir. Je vais faire un petit enregistrement. Tac. Je lance mon enregistrement. Let's go. Et on va appuyer sur la touche loop. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Loop. Tout simplement.
Il l'appelle loop, ok.
Ah non, il le dessine le loop. C'est une grande loop.
Ça, il n'a pas de nom. C'est bien.
Il n'y a pas de nom. C'est une loop. C'est la loop. C'est la loop qui est présente, la même que sur ton clavier.
Bah, top.
Donc, rien de mieux. Échappe, il l'appelle échappe. Non, c'est vraiment la même chose. Donc, pas de difficulté là-dessus. Hyper simple, hyper compréhensif. Donc, non, vas-y, c'est bien. Loop, c'est vraiment le dessin de la loop. Donc, ouais, si tu veux le rajouter dans la modification de certains de tes learnings, parce que ben, Google fait des modifications, toi aussi, tu es obligé de le faire, justement. Toujours dans la productivité, dans l'utilisation des produits de Google propres à Chrome OS, on en a parlé déjà, on en parle déjà assez souvent. Je voulais remettre un petit couvert sur Cursive, l'application de prise de notes manuscrite. Je ne sais pas si tu es du genre à prendre des notes manuscrites. Je sais que le clavier, tu l'aimes bien, moi aussi, mais les notes manuscrites, est-ce que ça te plaît?
Non, je suis très papier-crayon quand il s'agit de prendre rapidement des notes sur quelque chose, mais côté digital, je suis très clavier. Mes doigts sont une extension de mon clavier. Donc, ouais. je n'utilise pas Cursive, mais je trouve l'application assez intéressante.
Ouais, c'est Cursive, donc c'est une petite application type Nebo, type, j'en ai pas d'autres en tête, mais c'est une application donc, de prise de notes rapide, de dessin aussi. Hein. Et on en avait parlé avec Alexandra il y a 15 jours. Cursive est enfin arrivé avec le rejet de la paume. Et ça, c'est juste bluffant parce qu'un outil de prise de notes où tu peux même pas poser ta paume sur l'écran parce que tu écris en même temps, parce que le papier part dans tous les sens, ça me semblait impensable. Et Google n'y avait pas pensé. Ils avaient laissé ce système-là. Et là, maintenant, vous avez un petit curseur qui permet, dans les paramètres de l'application Cursive, d'activer le mode tactile. Et d'un seul coup, la paume est rejetée automatiquement. Ça change tout. L'application est passée de totalement inutile à presque indispensable. Donc, tu vois, c'est presque indispensable parce qu'il y a encore du travail à faire, mais ils y travaillent et c'est plutôt bon. Hein. J'adore. Essayez-la si vous l'avez. De toute façon, vous l'avez sur votre Chromebook, hein, Cursive. Vous ouvrez la touche tout, la touche Anythings ou je ne sais pas comment ils l'appellent. Et vous tapez Cursive, vous lancez l'application. Et ce qui est bien, c'est que tu peux créer des dossiers et des notes à l'intérieur de chaque dossier. Tu peux y mettre des codes couleurs, tu t'y retrouves plutôt bien. Et
la vraie question, c'est est-ce que c'est une erreur de développement quand ils ont construit l'application, ils l'ont oublié, ils se sont dit c'est pas nécessaire, ou est-ce que c'était plutôt un problème technique qu'ils ont mis du temps à résoudre? Et comme Google aime bien lancer les choses quand c'est pas tout à fait sec, voilà, ça serait bon de savoir si c'est une erreur technique de départ, un manque de réflexion, ou si c'est un temps nécessaire à développer ce rejet de la paume.
Ouais, je pense que, à mon avis, ils l'ont lancé sans même y penser. À mon avis. Ça me semblait plutôt la chose. Alors, dans le chat, j'ai Jean-Luc qui nous dit que la touche tout est dans la gestion des touches. Tu as méta au lieu de tot. Ah non, mais on ne peut pas appeler la touche tot méta, c'est pas possible. Donc, le tot, tu l'utilises, le fourre-tout, j'imagine, en bas. On ne peut pas
Toujours.
l'appeler méta, c'est pas possible. Je me lève et je m'insurge, je ne sais pas. Et Thierry qui nous dit que sur le 515, l'icône est la même que l'assistant Google, donc parler de la touche loop n'est pas pratique. Oui, effectivement, y a certains Chromebooks qui ont des claviers un peu particuliers, donc
Ouais.
ça peut être compliqué. Après, on pourra en discuter. Aller sur le salon Discord et puis on en parlera facilement. Hein. C'est pas un problème. Hein. Tiens, on te pose une question, je crois. Attends, je l'affiche ou pas? Tiens, que c'est lors des formations de Cyril, ses élèves préfèrent plutôt le clavier ou les doigts lors de l'emploi d'un Chromebook.
Alors, lors des formations, les élèves préfèrent avoir un écran propre.
Ok.
Tu vois très vite les gens qui utilisent le tactile, ils ont un écran qui est juste nettoyé avec une tronche de
Comme
jambon.
moi, c'est
Mais
ça.
voilà. Non, ça dépend. T'as vraiment des personnes qui sont full tactile et dès qu'il faut saisir, forcément, c'est plutôt au clavier. Mais pour le dessin ou pour naviguer sur Internet, ça peut être un mélange des deux. Une main droite sur l'écran, une main gauche sur le clavier. On a toujours sa main gauche hein, sur les touches Alt, Contrôle, Shift. C'est pour ça que notre main forme un L, notre main gauche, c'est pour accéder à toutes ces touches-là qui sont autour du clavier. Et votre main gauche, en règle générale, ne bouge jamais du bas à gauche de votre clavier. On en reparlera encore en fin de session, mais c'est important d'avoir le bon placement des mains sur le clavier.
Ouais, et oui, moi j'utilise effectivement les deux. Et j'ai ce réflexe d'utiliser le tactile pour, par exemple, balayer les notifications de mon écran. Parce que ça me semble tellement naturel avec l'usage d'un smartphone au quotidien que je balaye, mais j'arrive pas à balayer mes notifications avec ma souris, par exemple. J'ai du mal. Ça me
C'est pas fait pour
demande un
ça.
effort super difficile et je trouve ça bien. On revient sur l'application cursive. Dominique qui nous dit que l'application cursive a le pouvoir de redimensionner les images. Alors ça, c'est bien parce que c'est pas toutes les applications de prise de notes n'ont pas effectivement. On continue dans une fonctionnalité que je trouve tellement intéressante qu'elle aurait dû exister depuis le départ, c'est l'association express ou le fast pair. Tu le connais peut-être, tu l'as peut-être déjà utilisé, tu prends un casque Bluetooth, au hasard un Pixel Buds, tu l'approches de ton Chromebook, tu ouvres le petit capot de ton Pixel Buds et paf, magie, il est automatiquement raccordé à ton Chromebook pour être utilisé immédiatement et instantanément. Ça, c'est une solution qui vient d'arriver, qui est complètement opérationnelle maintenant sur nos Chromebooks. Donc évidemment, il faut un appareil compatible. Mais toi, est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que tu vois un avantage de l'utiliser sur d'autres produits? Est-ce que c'est une fonctionnalité qui te semble intéressante?
Alors c'est super intéressant, toujours dans un gain de temps et de productivité, et c'est toujours agréable. On ouvre le petit capot, effectivement, pouf, il y a une petite notification qui apparaît. C'est toujours intéressant. Ça se connecte vraiment avec tous les appareils compatibles. Mais ouais, il y a plein d'usages. Ça peut être des. De toute façon, tous les appareils qui vont être en Bluetooth, qui sont en Bluetooth, peuvent accéder comme ça à l'outil. Donc c'est top qu'il y ait de la reconnaissance finalement d'objets. C'est un petit peu comme des amis qui se rencontrent et pouf, salut, salut. Bon, bah, c'est bien.
Ça match,
Tu peux
effectivement. Et...
te connecter à moi, il n'y a pas de souci, je te connais.
C'est ça, mais tu fais bien de le dire parce que, bah, tiens, ça rejoint ce que dit Thierry. Est-ce que ce n'était pas déjà annoncé dans Chrome OS 111? Si, ça l'était déjà. Mais ils viennent de rajouter en plus une fonctionnalité qui est hyper intéressante parce que maintenant, ils synchronisent tous les appareils FastPair que tu as connectés sur ton Chromebook à ton compte Google. La petite chose hyper intéressante, c'est que du coup, tous tes appareils sont déjà reconnus par ton compte. Et donc, il te suffira de connecter ton compte à n'importe quel autre appareil pour qu'il se synchronise automatiquement sans avoir à refaire j'ouvre, machin. Et c'est hyper rapide, hyper fluide. Et c'est vraiment, à mon sens, très, très intéressant. Moins je fais de manipulation, mieux je me porte.
Ouais, par rapport à la 111 où on pouvait connecter effectivement sur plusieurs appareils, là c'est le fait de connecter un appareil finalement au compte Google, c'est ça qui est rajouté
Oui.
discrètement derrière, et ça permet d'être nomade encore plus, d'être multi-appareil encore plus, et c'est vraiment génial.
Et comme le dit Thierry, hein, ça fonctionne un petit peu comme les codes Wi-Fi, puisqu'aujourd'hui, les codes Wi-Fi sont synchronisés sur ton compte. Et donc, maintenant, tu ouvres n'importe quel appareil, que tu l'aies déjà utilisé ou pas sur le réseau Wi-Fi sur lequel tu te présentes finalement, il va se synchroniser parce que il y a un de tes appareils qui était connecté. Typiquement, moi, je synchronise mon téléphone avec plein de Wi-Fi et mon Chromebook, je change très régulièrement de Chromebook, je connecte mon compte et hop, automatiquement, il est connecté au Wi-Fi à l'endroit où je suis. C'est le côté magique, c'est presque Disney. Enfin, tu vois, il manquerait plus qu'une petite chanson puis des oiseaux bleus. Non, en ce moment, c'est pas la mode, les oiseaux bleus. mais c'est vraiment super sympa. On passe une autre amélioration. On parle de réseau. Belle transition. Merci Thierry. Les réseaux cachés. Donc aujourd'hui, quand tu te connectes à un réseau Wi-Fi qui est caché, donc tu tapes l'identifiant. Tu as peut-être regardé le conducteur d'ailleurs, Thierry. Je suis en train de me dire, belle transition. Tu te connectes à un réseau caché, donc il faut que tu tapes le nom du réseau plus l'identifiant, enfin le mot de passe. Et aujourd'hui, tu le gardes en mémoire à vie, en fait, finalement. Google va modifier un petit peu de cette solution-là et je pense que c'est plutôt intéressant parce que si tu le caches, c'est qu'il y a peut-être une raison, donc tu veux le donner à quelqu'un temporairement, puis après, tu as envie que ça s'arrête. Donc maintenant, au bout de... Alors, je vais dire une bêtise, j'ai un doute, je crois que c'est au bout de 2 semaines de non-utilisation, automatiquement, tu seras désynchronisé ce compte Wi-Fi. Et moi, je trouve ça plutôt bien pour la confidentialité, tout simplement, parce que tu t'es peut-être connecté aujourd'hui sur ce compte, mais demain, tu n'auras peut-être pas envie d'y aller. Et si ton Chromebook se connecte tout seul, tu ne seras peut-être pas forcément informé, toi. Internet, c'est Internet, finalement. Sauf que tu n'utilises pas le réseau que tu voulais utiliser et ça peut jouer en ta défaveur. Est-ce que belle évolution, une évolution qui aurait dû exister depuis le début, qu'est-ce que tu en penses, Cyril ?
Oui, c'est tout à fait intéressant de toute manière pour la sécurité que ça se désynchronise au bout d'un temps d'utilisation ou de non-utilisation, même si ça peut être un peu perçu comme une contrainte par l'utilisateur. Moi, je trouve ça très, très bien.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Et dis donc, on en a des évolutions. Je pensais qu'on n'aurait pas grand-chose à dire, mais finalement, il y en a beaucoup. Et puis, une petite dernière sur Chrome OS 112, qui est le drag and drop que tu utilises, je suis sûr. Ça fait partie de mes raccourcis, mais pas clavier, mais souris, tu vois, c'est l'utilisation de solutions. Aujourd'hui, le drag and drop d'images, de liens, de tout ce que tu veux, tu l'as via le fourre-tout. Tu sais, quand tu télécharges quelque chose, ça se met dans le fourre-tout. Ensuite, tu ouvres le fourre-tout. Là, je suis en train de faire exprès de détailler chaque étape. Tu ouvres le fourre-tout, tu fais un clic tenu sur l'image et ensuite, tu la glisses dans le document Google Doc que tu veux faire. Oh, là, c'est bien, mais c'est long, en fait. Et Google le sait. Et ils se sont dit, tiens, on va créer un truc qui nous permettra de glisser et déposer les images qu'on a reçues dans nos notifications directement depuis la notification. Pourquoi devoir cliquer sur la notification pour qu'elle arrive dans notre fourre-tout ? Évidemment, ils viennent de nous enlever une étape, enfin, 3 étapes hyper intéressantes, enfin, hyper importantes. Et là, juste, je l'utilise, depuis que c'est arrivé, je l'utilise, mais tous les jours, au moins 10 fois, chaque notification... On glisse, on dépose, c'est magique. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, cette évolution.
Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais à partir du moment où ce qui s'affiche sur un écran est accessible et glissable, forcément, ça nous fait gagner du temps sans être obligé de devoir le retélécharger, le réouvrir. C'est forcément un gain de temps. On a envie de prendre une petite vignette sur le côté, la glisser tout de suite sur un dock. Et je ne sais pas si tu connais le drag and drop sur les onglets. On prend une image et quand on vient survoler les onglets de Chrome, ça, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne le savent pas. C'est l'onglet, ça, en fait, ça vient ouvrir l'onglet sur lequel vous êtes. Vous avez une image, vous glissez sur un Google Slide qui est dans un onglet, puis vous vous dites, ah non, c'est pas le Google Slide, c'est plutôt le Google Doc qui est à côté. Ben, il suffit de survoler l'onglet qui est à côté, ça va l'ouvrir. Et donc, sans relâcher le clic de la souris, on n'a plus qu'à déposer. Et ça, c'est pas connu. Pour moi, c'est très peu connu. Et c'est très utile.
Un tip hyper intéressant, tu vois, je le connaissais pas, je le connaissais mais je l'utilisais pas, et étonnamment, mais je vais peut-être faire plus attention à ça maintenant, parce que j'utilise, alors je suis raccourci clavier un peu trop, les majuscules tab pour passer d'un onglet à un autre, mais c'est encore plus rapide finalement, donc pourquoi ne pas aller au plus rapide. Alors si tu l'avais pas le nouveau drag and drop, le glisser déposer, j'ai fait une faute de frappe je pense, il faut peut-être activer un flag. Donc, je l'ai mis dans les notes de l'émission. Allez le voir. Je vous l'ai mis dans le chat. Il faut activer le flag et ça marche, mais vraiment parfaitement. C'est juste hyper intéressant à utiliser. Je ne comprends pas pourquoi ça n'existait pas là, que ça n'était pas là avant. Mais maintenant qu'il y est, vous allez voir, c'est vraiment parfait pour tout, hein. Un mail, un document doc, un SMS, puisque tu peux écrire tes SMS depuis ton Chromebook, tu peux un chat, WhatsApp, Viber, Telegram, Google Chat, bah, bref, tout. Tu peux utiliser partout ton glissé-déposé. C'est vraiment très, très intéressant. On a fait déjà la moitié de l'épisode, mais les autres sont plutôt rapides puisqu'on va parler de Chrome 112. Donc là, ça va toucher plus de monde, évidemment. Chrome 112, c'est ce que vous avez sur... C'est le navigateur web le plus utilisé au monde sur n'importe quel système d'exploitation. Windows, Linux, macOS et évidemment Chrome OS. Eh bien, lui aussi, quand Chrome OS évolue d'une petite étape, ben Chrome évolue également de la même étape. Donc on est aujourd'hui synchrone. Hein. Chrome OS 112, Chrome 112, c'est parfait. Et quelques évolutions qui sont arrivées. Alors, c'est des solutions que moi j'utilise pas mal, donc je vous ai mis celles que j'avais mises en avant. Il y en a 3-4 qui semblent être intéressantes. La première, c'est le mode lecture. Le mode lecture, on en a déjà parlé plein de fois avec Alexandra dernièrement, mais j'en avais déjà parlé avant et avant et avant et avant. J'adore ce système-là. Donc aujourd'hui, vous avez l'accès. Alors si vous ne l'avez pas, il y aura peut-être un flag à activer également, mais ne vous inquiétez pas, un flag, ça fait pas mal. Hein. Vous allez sur chrome://flags, vous collez, vous cherchez le flag, vous faites activer, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Et si par hasard, ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, vous pouvez le désactiver de la même façon. Enable, disable, et c'est réglé. Donc, le mode lecture, pardon, c'est hyper intéressant. C'est tu vas sur un site web qui a plein de choses, plein d'images, plein de pubs, plein de machins, et tu as envie d'être focus sur le texte, sur le contenu de ton image. Et grâce au mode lecture, tu vas cliquer donc dans la barre latérale de Chrome OS, c'est le petit carré en haut à droite, près de, je crois qu'il est près de ton avatar de compte Google. Tu cliques dessus et il y a un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, il te suffit de sélectionner mode lecture. Donc le mode lecture, ça va épurer totalement tout ce qui se passe à l'écran. Donc ça va l'ouvrir dans la barre latérale. Et dedans, tu vas avoir uniquement le texte. Excite les frames, les cadres de droite ou de gauche. Excite les publicités, excite les vidéos. Bref. On t'épure au maximum et tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir lire plus facilement ton texte sans avoir de choses qui brûlent ta rétine à chaque fois que tu vas dessus. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux changer la police d'écriture, tu peux augmenter la taille de la police d'écriture, tu peux la diminuer évidemment, tu peux changer le fond du document. Donc, tu as plusieurs fonds. Alors, tu n'en as pas 50 000, tu as clair, sombre, jaune ou bleu. En fonction de ta capacité de vision, en fait, certaines couleurs peuvent être plus intéressantes pour lire mieux. En l'occurrence, moi, j'utilise le sombre parce que je préfère le sombre, vous l'avez vu tout à l'heure. Et tu peux aussi avoir modifier l'espacement entre les lignes, mais l'espacement aussi du texte dans la longue, entre les lettres. Pardon, je vais y arriver. Et d'un seul coup, ton texte, il est très, très rapide à lire, beaucoup plus fluide, et t'es totalement focus. Je ne sais pas si tu utilisais déjà une fonctionnalité, hormis celle-ci, qui te permettait d'épurer des choses sur certains sites web.
Alors, pour être franc, j'ai la fonctionnalité sur mon smartphone. Moi, dès que j'arrive sur une page web, j'ai un petit panneau qui s'affiche au-dessus, afficher l'affichage simplifié. Oui. Je clique dessus et j'ai que de la lecture. Parce que sur smartphone, c'est une horreur d'avoir trop d'éléments perturbateurs autour. J'avoue que sur grand écran, j'y pense pas forcément parce que j'arrive à me concentrer sur ce que je suis en train de lire et je bascule rapidement dessus. Mais si j'y pense, je pense que ça peut être une bonne idée pour enlever un petit peu les éléments perturbateurs.
Eh ben, essaye et puis fais-nous un retour quand tu auras essayé. Tu vas voir, c'est étonnant, intéressant et plutôt sympa à utiliser. Moi, comme je disais, je l'utilise beaucoup par rapport à un problème de dyslexie. Ça me permet de focaliser beaucoup plus facilement sur la lecture et de ne pas m'éparpiller. Alors, j'ai plusieurs problèmes. Moi, je m'éparpille très vite, hein, donc vous l'aurez vu. J'ai gesticule dans tous les sens et je m'éparpille vite. Donc, si on peut me cadrer, c'est très, très bien. Autre chose, bah, tu l'avais abordé, Chrome adopte une nouvelle interface Material You. Alors, quand je dis Chrome, bah, c'est déjà Chrome en elle-même. Donc, une interface, la barre d'URL plus petite. Le texte a changé, la police d'écriture
a changé.
Ouais. Et puis le menu d'icônes de tes extensions vient se ranger différemment, plus fin, plus petit, plus beau. Et quand tu passes ta souris dessus, il y a un halo qui entoure l'extension pour bien te signaler que tu vas cliquer sur cette extension et que c'est cliquable parce qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, en fait, quand tu cliquais sur une extension, tu savais pas vraiment si tu avais cliqué dessus, elle s'ouvrait, si elle devait s'ouvrir, mais si elle devait pas ouvrir quoi que ce soit. tu ne savais pas si elle était fonctionnelle. Aujourd'hui, tu vas voir le Halo se mettre en route. Et puis, il sépare aussi les fonctionnalités dites propres à Chrome. La barre latérale, par exemple, le système multimédia pour caster, pour lire de la musique, avance, play, retour. Aussi, la petite icône puzzle pour accéder aux extensions. Donc, il te le sépare dans deux petits cartouches différents. C'est plutôt sympa. Et puis, dans le menu, en règle générale, tout vient s'arrondir. Vous voyez, le matériel You, finalement, c'est du rond. C'est des rondeurs. Quand tu vas, par exemple, pour créer un raccourci de ta fenêtre, maintenant, la fenêtre a des coins ronds. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des coins, du coup, mais c'est rond. C'est plus joli, c'est plus sympa. Et effectivement, il faut activer des flags. Si vous ne l'avez pas... Donc, je ne vais pas tous vous les donner, il y en a plusieurs, mais allez chercher dans les flags CR23 et puis GM3. Et ben d'ailleurs, tiens, Jean-Luc nous le dit en même temps. Donc, c'est deux, trois flags à activer. Ça va vous permettre de voir ce que devient Chrome graphiquement. Et c'est plutôt joli. Et tu nous disais d'ailleurs que Material You était arrivé dans Google Docs et Cheat. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment interpellé, intéressé, voire détesté complètement? Tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça?
Alors, ce que j'ai détesté, c'est que j'ai 600 tutos à recapturer mes catalogues parce qu'ils ont tout changé. Non, fondamentalement, ça n'a pas changé les fonctionnalités, donc c'est pas très dérangeant. Il y a des petites adaptations quand même, tu vois, typiquement, avant, dans Google Sheets, c'est un détail ce que je vais vous dire, hein, mais les hauteurs de ligne étaient de 20 pixels. Et aujourd'hui, c'est passé, de 21 et c'est passé à 20 pixels. Ils ont enlevé un pixel de hauteur de ligne par défaut sur Google Sheets. Donc, ça fait des petits détails. Il y a des choses que je déteste, typiquement dans Google Drive. Maintenant, vous avez des cases à cocher qui sont situées devant les fichiers dans Google Drive, dans la nouvelle interface. Ça, c'est génial pour les gens qui ont besoin de sélectionner plusieurs fichiers. En plus, avec le CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, c'est pratique. Mais ça masque l'icône du fichier qu'on a sélectionné. Donc, on voit plus quelle est l'icône du fichier. Et comme vous le savez très bien, dans les fichiers Google, il n'y a pas forcément une extension qui apparaît derrière. Il n'y a pas marqué PDF, DocX, PPTX ou autre. Donc, quand c'est sélectionné, on ne sait plus quel est le type de fichier et on n'a plus accès du tout à ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Donc, c'est le chemin qui apparaît au-dessus. Dès que vous cliquez sur quelque chose, ça vous met le nombre d'éléments sélectionnés. Eh bien, ça, je déteste. Je voudrais bien pouvoir retirer ou désactiver à minima cette option-là. Et puis, la police est plus fine. Il y a un petit temps d'adaptation quand même. Oui. Visuellement, c'est plus moderne, c'est plus sexy, il y a aucun souci. Hein, Google va dans le bon sens par rapport à tout ça.
Ouais, mais bon, effectivement, je te plains, 600 tutos à refaire entièrement, désolé.
C'est ça.
Ça va être très très long. Beaucoup de café en perspective. Bon, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, et je peux comprendre. Le fil d'Ariane, c'est dommage, j'avais pas fait attention, mais effectivement, ça peut être agaçant.
C'est agaçant, je confirme.
Et ça a l'air, en tout cas. Je ne sais pas si ce que je vais t'annoncer après va te plaire également, puisque tu utilises peut-être des applications sur ton navigateur Chrome, des applications que tu vas trouver dans le Chrome Web Store, typiquement Loom, des choses comme... Ah non, c'est des extensions, des applications, pardon. Figure-toi que c'est terminé, fini, blackout, on ferme le rideau, on abandonne, Chrome Web Store dit non aux applications. Les extensions, vous les gardez quand même, hein. Mais les applications, c'est terminé, plus d'applications téléchargeables depuis le Chrome Web Store. Google met l'accent sur les PWA, tu sais, ces applications web que tu n'as pas besoin d'aller télécharger finalement sur le Chrome Web Store, puisque tu vas sur le site en question. Ça peut être un logiciel SaaS, ça peut être n'importe quelle page web où le développeur a décidé de le mettre en format PWA. Ça te permet d'accéder et créer directement une application. Enfin, en tout cas, ça ressemble à une application, mais c'est une page web et c'est très fonctionnel. Et Google dit, maintenant, les PWA sont assez performantes, donc j'arrête définitivement les applications sur le Chrome Web Store. Alors, ceux qui sont sur Chrome OS, pas d'inquiétude, vous avez encore jusqu'à janvier 2025 pour profiter de vos applications. J'aurais tendance à vous dire trouver une alternative à l'application que vous utilisez actuellement, parce qu'en janvier 2025, normalement, il n'y aura plus de délai et ce sera fini. Donc, allez chercher les applications, au moins des équivalents, ou si l'application peut-être s'est mis au PWA directement. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est dans l'air du temps?
Ah bah moi, je ne suis pas gêné parce que je crois que j'ai aucune application du Chrome Web Store. Je n'ai que Chrome. C'est ce que je dis souvent à mes stagiaires. Moi, je monte le matin dans mon vaisseau Chrome, je mets mon petit casque de pilote et je ne sors pas de mon vaisseau. Je navigue dans l'univers Google toute la journée. Je me redépose le soir, j'enlève mon casque et je rentre chez moi pour m'occuper de ma famille. Mais
Bah, super.
vraiment, j'ai aucune application, je crois, du Chrome Web Store. J'ai quelques extensions bien sympathique, mais pas d'application. Donc je ne
Eh ben,
pense pas être gêné énormément par ça.
bah, c'est bien. Mais de toute façon, au fur et à mesure, j'ai regardé les applications les plus célèbres dans le Chrome Web Store, celles qui ont été le plus téléchargées et continuent à être mises à jour, évidemment, ont trouvé leur alternative PWA directement chez le fournisseur, le développeur. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Et ça me semble normal de pas tout mélanger. On aurait pu peut-être imaginer que Google laisse le Chrome Web Store application, mais n'y stocke que des PWA, comme ils le font un petit peu sur Android, en fait.
Ouais.
Sur le Play Store, aujourd'hui, tu peux télécharger une application, mais en fait, c'est une PWA que tu télécharges. Tu télécharges l'icône de la page web qui te permet d'accéder à l'application. Ils auraient
C'est vrai,
peut-être
c'est
pu
une bonne
faire
façon.
ça plutôt qu'être drastique et dire bon, on vire carrément la catégorie. Mais bon. Peu importe, ça va avancer et c'est plutôt intéressant quand même de voir les PWA grandir comme ça et j'en suis très très fan. Les deux dernières news, Cyril, si tu me le permets, on va les assembler parce qu'elles touchent un public qui n'est forcément très intéressant, mais plus pointu et plus pointu que moi surtout, et peut-être que toi, je ne sais pas. La version 112 de Chrome OS va proposer une nouvelle fonctionnalité pour les développeurs, la prise en charge de certaines règles, certaines omissions, certains services. Je vous laisse. Je ne vais pas vous les donner en live, je serai pas très, très bon là-dedans. Je vous laisse les quelques modifications qu'ils ont apportées dans les notes de l'émission. Allez voir si vous êtes intéressé. Il y aura un lien en plus pour aller voir quelles fonctionnalités ont été modifiées ou vous seront arrivées. Donc allez voir. Et puis la dernière, c'est une mise à jour de sécurité qui est plutôt intéressante puisque comme toutes les versions de Chrome et toutes les modifications d'application, les évolutions. On corrige des failles. Là, 16 failles ont été trouvées par des chercheurs externes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il y a 16 failles qui ont été trouvées de sécurité. Elles ont été trouvées, mais par des externes. Donc, vous savez que vous pouvez participer au Bug Bounty si vous êtes développeur, chasseur de bugs. Vous allez sur la page Bug Bounty de Google et si vous êtes assez bon, vous avez des bugs qui sont plus ou moins rémunérateurs. Si vous trouvez des failles zéro day, donc qui touchent au cœur même du système et que vous la déclarez à Google et qu'elle est vraie, qu'elle s'avère juste, ils vous rémunèrent. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est 100 000 euros, 200 000.
C'est bien payé.
Voilà, c'est plutôt bien payé, effectivement. Donc, mais ça le
Ça fait
mérite, hein, parce que.
des beaux super stickers, quoi.
On est d'accord. Ça fait des très très. Allez-y, allez faire un super sticker pour nous comme ça et ça serait cool. Au programme, débordement de mémoire tampon qui ont été corrigés, accès à la mémoire hors limite, implémentation inappropriée, enfin plein de choses comme ça qui nous touchent de toute façon directement parce que quand on déborde la mémoire, le Chromebook explose. Enfin, Chrome n'arrive plus. Enfin, l'ordinateur n'arrive plus à gérer l'afflux d'informations. Et sur Windows, on a une page bleue, tu vois. Sur Chrome OS, on n'a rien, mais sur Windows, il y a une page bleue, elle va devenir noire, je crois, tellement elle agace beaucoup de monde. Donc voilà, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Est-ce qu'il y a dans tout ce qu'on a dit entre Chrome OS 112 et Chrome 112, il y a quelque chose qui te marque plus que d'autres, Cyril?
Bah, moi, évidemment, sur la partie screencast, je suis très intéressé et avide de voir un peu ce que ça va donner et des améliorations qu'ils vont donner. Donc ça, c'est vraiment cool. Et justement, Jean-Luc vient de dire à quand l'IA dans Google Workspace. C'était annoncé au printemps. Alors le printemps version Google, c'est pas encore le printemps chez nous, hein,
Le
mais il y
décalage
a des
horaire.
choses qui vont arriver. Et ce qui est vraiment génial, j'avais fait une petite vidéo de traduite en français, hein, si vous aimez bien le français. J'ai simplement repris la vidéo de teasing de Google et avec des sous-titres en français et une voix en français. Mais il y a de la conversationnelle qui est ajoutée, de fait de pouvoir prendre 10 mails dans une conversation, d'en faire un résumé, de transformer ce résumé en brief dans un Google Doc, de transformer le brief en présentation Google Slide dans Google Slide. Bon, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Moi, ce qui par rapport au point que tu as cité à la fin là sur la sécurité, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand est-ce que l'IA va commencer à détecter les bugs et
Ah
puis l'IA qui est virulente va commencer à créer des bugs. Et donc, il faudra inventer une IA qui sera un anti-IA pour vérifier que l'IA n'a pas créé de bug. Donc, ça s'annonce assez intéressant, le combat de la sécurité avec l'IA qui arrive. Parce qu'on se dit que ça va nous apporter des bonnes choses, l'IA, mais aussi des mauvaises, je pense. Donc, il faudra créer une IA contre la mauvaise IA. C'est un petit peu le bordel.
Mais ça peut être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir cette série sur Netflix, hein, en tout cas.
C'est... Tout à fait.
Il y a des choses hyper intéressantes avec l'IA. Là, dans ce que tu as cité, tu vois, j'aurais adoré là, avoir accès à Bard, enfin, je ne sais pas comment ils l'appellent, l'intelligence conversationnelle, dans mon Google Doc. Tu vois, j'ai créé le Google Doc avec toutes les rubriques et j'aurais aimé qu'ils m'en fassent un slide, tu vois, directement, plutôt que je m'embête à faire des copier-coller ou des choses comme ça. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs, hein, tu vois, du coup.
Ça arrivera, c'est annoncé au printemps, mais je pense que c'est annoncé au printemps côté US. Ouais. Ça veut dire que moi, sans être trop pessimiste ou optimiste, je pense plus octobre-novembre en France et en français pour l'IA dans Google Workspace. Si vous êtes sur des licences payantes, évidemment, hein, je pense pas que ça sera très accessible sur du Gmail gratuit. Mais ça s'annonce très intéressant. Faudra bien l'utiliser et ça remplacera pas les humains. Faut qu'on ne s'inquiète pas de ça. L'IA n'a pas de talent.
Ouais, et puis ceux qui ont du talent sauront se servir de l'IA.
C'est ça.
Donc, c'est ça. Ceux qui n'en ont pas, bon, bah, écoutez, voilà. on passe au coup de cœur, Cyril, si tu veux. Comme tous les épisodes du CKB Show, maintenant, c'est devenu un rituel. À la fin, on ne part pas d'ici sans avoir donné notre coup de cœur. Et tu nous as teasé tout du long, en nous disant, j'ai un truc à vous dire à la fin. Alors, je vais te laisser la main dessus. Dis-nous quel est ton coup de cœur de ces plusieurs mois, je crois.
Plusieurs mois, est-ce que ça date du Covid ? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 42 ans. Ça veut dire que je ne suis pas une génération qui a appris à l'école à écrire au clavier. Et j'écrivais très vite avec deux doigts de chaque main. Donc, j'écrivais très vite avec quatre doigts. Enfin, je pensais écrire très vite. Sauf que quand on écrit avec quatre doigts, forcément... On n'est pas magicien, il faut que nos yeux regardent le clavier, puis regardent l'écran, puis regardent le clavier. On fait beaucoup d'erreurs. On écrit presque des fois 10 mots avant de se rendre compte qu'ils sont écrits en majuscules. Et on se dit « Merde, je les voulais en minuscules. » Et hop, on efface tout et on recommence. Et en fait, pendant le Covid, je me suis pris d'amour pour une application qui n'est pas du tout du Google, hein, qui s'appelle Typing Club. Typing Club, ça vous permet d'apprendre à écrire avec vos 10 doigts bien placés sur le clavier. Et quand je dis apprendre à écrire avec les 10 doigts, c'est vraiment façon dactylo où on va donner des réflexes musculaires à nos doigts. Donc, au début, effectivement, il faut faire un effort. Il faut habituer nos doigts à faire un déplacement soit vers le haut, soit vers le bas, puisque le point de départ, c'est d'avoir vos deux index sur les deux touches, ceux qui ne le savent pas ou celles qui ne le savent pas, sur la lettre F et la lettre J. Même sur vos Chromebooks, vous avez toujours un petit taquet qui vous permet de positionner vos deux index. Et tous les autres doigts vont s'aligner sur ce qu'on appelle la ligne repère. Et à partir de ça, vos doigts doivent épouser le clavier, vous devez pouvoir accéder à n'importe quelle touche sur le clavier. Et donc, Typing Club vous permet d'apprendre en vous amusant, c'est ludique, vous partez du début de chez début, donc on apprend F et J. Ça, c'est le premier exercice. Et puis, à la fin, vous avez plus de 500 exercices. Si vous en faites 10 minutes tous les soirs, vous allez rapidement augmenter votre vitesse de frappe. Moi, je suis passé de 30 mots minutes à 40 mots minutes, puis 50 mots minutes. Là, je talonne entre 50 et 60 mots minutes. Des fois, je m'entraîne un petit peu. Et puis, c'est vraiment au-delà du gain de temps, vous faites moins de fautes puisque vous regardez votre écran, donc vous détectez tout de suite les fautes. Vous avez une bien meilleure posture. Votre dos est bien droit, vos mains sont sur le clavier. Et quand vous arrivez à combiner, c'est ce que je disais, le clavier, c'est une extension des mains. Les réflexes musculaires vont devenir tellement logique, puisque ce sont des réflexes, votre doigt, il va tout de suite sur la bonne lettre avant même que vous ayez envie de lui dire « va appuyer sur un E, va appuyer sur un A ». Et au début, on n'y croit pas, mais je vous assure, si vous vous entraînez 10 minutes, 15 minutes par jour, moi, des fois, je faisais 1 heure 50 le dimanche, je sais, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça à faire le dimanche, mais j'étais en confinement, donc j'étais confiné, voilà, je confinais. Mais vraiment, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mes enfants ont 10 et 13 ans et j'aimerais leur dire, mais apprenez à écrire avec vos 10 doigts sur un clavier, ça va changer votre vie pour le reste de leur vie. Et nous, on n'est encore pas tout à fait à la retraite, mais voilà, c'est vraiment pertinent. Et plus les raccourcis clavier, le gain de temps, le gain d'énergie et la posture, vous avez beaucoup moins mal au dos quand vous écrivez avec vos 10 doigts que d'être un petit peu comme Bruce Tout-Puissant à écrire sur un clavier comme des grands malades. Voilà, donc c'est typingclub.com, c'est gratuit, il y a quelques publicités mais qui ne sont pas du tout gênantes. Il y en a plein d'autres, des sites comme ça, mais celui-ci est vraiment ludique, dynamique. C'est un peu l'équivalent de Duolingo pour apprendre les langues. Si vous connaissez Duolingo, bah vous voyez le côté ludique et addictif. Bah, Typing Club, c'est pareil, mais pour le clavier.
Bah, c'est excellent. On en avait parlé. J'ai testé, hein, j'ai commencé à tester. Alors, je ne vais pas vous dire mon score, je vous le dirai une fois que j'aurai vraiment saisi. Enfin, je n'ai pas fini le premier, donc du coup, il va falloir que j'avance un peu. Mais je vais essayer de m'y mettre dessus parce que j'ai regardé. Moi, quand tu m'as dit ça, moi, je me suis dit, bon, j'utilise mes 10 doigts. Non, en fait, j'en utilise 8.
C'est ça.
Ceux-là, ils servent à rien, en fait.
C'est ce qu'on appelle les feignants. Alors qu'en fait, c'est le doigt du contrôle, ça. Ça, c'est contrôle. De chaque côté de votre clavier, vous avez une touche contrôle. Le petit doigt, c'est le doigt du contrôle. Et les index, c'est vraiment F et J. Et à partir de là, vous êtes capable de tout faire.
Et est-ce qu'avec mon petit doigt de la main droite, j'appuie sur la touche entrée ou c'est uniquement mon contrôle?
Alors je sais, moi le quand je fais contrôle entrée, qui est l'un des raccourcis les plus importants à connaître pour envoyer un mail directement, pour enregistrer une fenêtre d'agenda, au lieu de reprendre votre souris, d'aller cliquer sur le bouton bleu, faites un contrôle entrée. Et vous verrez que contrôle entrée, c'est pas forcément le contrôle de la main gauche et le entrée de la main droite, puisque ça nous oblige à regarder notre clavier. Mais vous remarquerez que vous avez deux touches contrôle sur le clavier. Et souvent, on l'oublie, celle qui est à droite.
Ouais, celle qui est à droite.
Et celle qui est à droite, si vous appuyez dessus avec le pouce, vous verrez que votre index va automatiquement faire contrôle entrée. C'est vraiment un petit U à faire avec le doigt, et le pouce et l'index. Et le contrôle entrée, il est génial pour envoyer des mails tout de suite, pour enregistrer des événements d'agenda, pour enregistrer des contacts. Dès que vous avez besoin, même sur LinkedIn, hein, vous écrivez votre post, vous avez envie d'envoyer votre post. Je suis persuadé que 99% d'entre vous prennent la souris et vont cliquer sur envoyer. Faites contrôle entrée. Contrôle entrée.
Ok, à noter. Donc, c'est ton raccourci clavier fétiche. Mais je comprends. Il est très utile. Hein. Je vais m'y mettre dès maintenant. Et non, alors il y a Didier qui nous dit que les petits doigts, ce sont uniquement pour les oreilles. Mais non, y a pas, ça peut servir à autre chose, Didier. Hein. Rassure-toi.
Ça dépend de la taille des oreilles.
Thierry nous dit contrôle entrée pour renommer un fichier sur Chrome OS, effectivement, dans l'application fichier contrôle entrée. Très bien. Alors, moi, je n'utilise pas le petit doigt pour le contrôle entrée, bizarrement. C'est le pouce et l'index.
Pour la main droite, oui, pouce index pour le contrôle entrée, oui.
Ouais. Je crois qu'on avait parlé aussi d'une application qui nous permettait de jouer à tuer des mots. Je sais pas, est-ce que tu avais le nom ou pas ?
J'ai pas retrouvé le nom, donc je la retrouverai, mais c'est une sorte de... Il y a du Y, il y a du Z, il y a du T, un petit peu comme il y a du type dedans. Et en fait, c'est une application qui fera plaisir à certains d'entre vous, parce qu'apparemment, je suis jeune, donc forcément, il y a des plus âgés, mais qui vous permet d'avoir un petit vaisseau qui navigue en bas. Et au lieu d'avoir des vaisseaux à assassiner qui descendent du ciel, eh ben ce sont des mots. Et pour tuer les vaisseaux, il faut les saisir dans l'ordre. Et donc, vous verrez que quand vous écrivez avec 10 doigts, ben c'est plus facile de tuer les vaisseaux que de regarder les vaisseaux, comment ils s'écrivent. Alors, ensuite, c'est un A, ensuite, c'est un E. Donc, c'est un excellent jeu. Pareil, c'est ludique pour accélérer sa vitesse de frappe. Mais je vous invite à faire cet exercice-là après Typing Club. Entraînez-vous, apprenez. Sûr. Avec Typing Club. Et après, vous pourrez augmenter votre vitesse en jouant ce type de jeu. J'en ai trouvé un autre sur Internet, c'est Nitro, je ne sais plus comment. Pareil, je le mettrai peut-être dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, zty.pe.
Ouais, exact. Zty.pe.
Et il y en a un autre, ça s'appelle Nitro quelque chose. Et pareil, c'est une petite course de voiture. Et tu ne fais avancer ta voiture plus vite que les autres que quand tu écris les mots qui sont devant toi sur la route. Donc, et tu joues en live avec d'autres personnes qui essayent aussi d'écrire plus vite au clavier que toi.
Ok, bah c'est... Ah, en plus, tu es en battle.
C'est en battle.
Ouais. T'es en battle. Il y a Alain qui nous pose une question. Y a-t-il aussi des exercices pour les majuscules ? Toujours une difficulté pour lui.
Alors, Alain, il y a des exercices pour les minuscules, pour les majuscules, pour les caractères spéciaux, pour les chiffres. Et je ne parle pas des chiffres du pavé numérique qui sont à droite, je te parle des chiffres qui sont sur la ligne supérieure. Et donc, tu as des raccourcis à faire. Et c'est pareil pour mettre en majuscule. On t'apprend à appuyer sur la bonne touche Shift, soit celle de gauche pour mettre des majuscules qui sont à droite de ton clavier, soit la touche Shift de gauche pour de droite pour appuyer sur des majuscules qui sont à gauche sur ton clavier. Parce que souvent, on utilise la même main pour faire le majuscule et la touche. Mais pour faire un A majuscule, on va appuyer sur le shift de droite. C'est là où tu vas gagner du temps. Donc, il y a des excellents exercices pour ça. Et puis après, quand tu connais tout ton clavier, bah, tu as des jeux de mots, tu as des petits paragraphes à écrire, tu gagnes des étoiles, tu peux les écrire de plus en plus vite. Tu as des statistiques sur tes évolutions. C'est vraiment génial, Typing Club. En version gratuite, hein, j'entends.
En plus, oui, donc exceptionnel. J'adore. Je vais y aller. Alors, pareil, moi, je viens d'apprendre une chose. Moi, j'utilise mon petit doigt. Je reste appuyé sur Shift et je tape les majuscules en gardant mon petit doigt appuyé. Moi, enfin, je suis bizarre, mais ça marche. Donc, mais c'est bien. Il y a une amélioration à faire. Je suis content. Je vais pouvoir m'améliorer encore. Et Alain va s'y mettre aussi. Donc, ça va être cool.
Ouais, merci. Pas directement.
Ouais, dis-nous tout ça, Alain. Merci pour cette superbe application, page web même, c'est même pas une application, c'est une PWA. Ouais. Moi, je voulais en amener un qui sera peut-être même compatible avec le tien, c'est use chatgpt.ai. En gros, je suis fan en ce moment de tout ce qui est intelligence artificielle. Si je ne me retenais pas, aujourd'hui, j'aurais un blog, un site web, une page YouTube, bref, plein de trucs qui parleraient d'intelligence artificielle. J'ai pas le temps, heureusement, parce que sinon je n'arrêterai pas de faire ça. Mais par contre, j'utilise beaucoup de ChatGPT parce que ça m'aide énormément dans plein de choses. Tu vois, j'ai créé une extension pour My Chromebook. L'extension, elle était simple. Je sais pas si tu l'as vu, Cyril, mais ça liste les 5 derniers articles du site cliquables, donc via un flux RSS, un moteur de recherche qui pointe vers Google, mais uniquement sur les recherches My Chromebook. Bref, des petites icônes, des trucs comme ça. Et je me suis dit, oh, je prends envie de la planifier, même si je sais le faire, ça va me prendre une heure, une demi-heure. Et bêtement, je suis allé voir ChatGPT, je lui ai dit, vas-y, fais-moi ça. Et je lui ai dit ce que je voulais, et pouf, il me l'a sorti. Bon, après, je l'ai amélioré un petit peu parce que je voulais certaines choses particulières, mais même si tu voulais t'en servir tel quel, ça marche parfaitement. Ça fonctionne pour faire des tableaux, ça fonctionne pour faire... T'as une panne, tu te dis, mais comment je vais parler de ça? Je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le tourner. Tu lui balances, il le fait. Alors aujourd'hui, tu es obligé d'aller sur la page chatgpt.openai.ia, je ne sais plus d'ailleurs, openai.com. C'est un peu agaçant, encore une perte de temps. Eh bien, usechatgpt.ai, c'est une extension Chrome que tu vas télécharger et qui se met sur Chrome. Point. Ça veut dire que tu y as accès partout. Tu ouvres ça, un Alt-J, ça te permet d'ouvrir une barre latérale avec ChatGPT dedans. Tu sélectionnes du texte qu'il y a sur ton... Tu vois, par exemple, tu es en train de faire un... Bah, là, je pourrais le faire sur Google Docs, je sélectionne tout le texte, je clique dessus, ça m'ouvre ChatGPT, donc User ChatGPT AI, et là, j'ai plein de raccourcis déjà créés. Crée-moi un sommaire, crée-moi des points, fais-moi un article, fais-moi un mail, fais-moi un truc, et ça te le fait directement et hyper simplement. Ça permet d'avoir des résumés, mais très, très vite, et bah, d'avancer encore plus vite dans ton raisonnement, dans ta recherche, et je trouve ça génial. usechatgpt.ai, allez-y, c'est gratuit. Je vous invite à la tester si vous aimez ça. Tiens, je vous mets le lien aussi dans les
et même si le nom de l'application ou de l'extension est en anglais, sachez que ChatGPT est très bon en français. C'est là où ils ont vraiment une forte ils sont époustouflants. Ils parlent très très bien dans beaucoup de langues. Il y a plein d'intégrations dans la G Suite, hein, que ce soit dans Doc, dans Sheets, pour faire des bouts de script, des formules, des choses comme ça. C'est génial ce qui arrive. Voilà, mais il faudra savoir bien l'utiliser et affiner un petit peu. Mais ça fera gagner du temps sur le syndrome de la page blanche, en tout cas, c'est sûr.
Ouais, c'est un gain de temps impressionnant. Tu vois, tu parlais de Google Sheet. L'autre fois, je cherchais une fonctionnalité. Je voulais qu'il me fasse un tirage au sort dans un tableau Google Sheet. Je me dis, ah, il y a des fonctions, mais c'est lesquelles? Déjà, je m'en sers jamais de cette fonction-là. J'ai passé, au bout de 2 minutes, je vais aller, laisse tomber. J'ai demandé à ChatGPT. Il me l'a sorti en 3 secondes, quoi. Je fais, bon, bah, d'accord. Allez, hop, c'est bon. Allez, j'ai plus qu'à la copier-coller, mais ça m'a fait gagner un temps de fou parce que j'aurais passé. De toute façon, j'étais obligé de le faire. Donc, du coup, ça m'a permis de le faire tout de suite sans embêter personne. Et puis, ça a été parfait pour moi et j'adore. Et testez-la, vous allez voir. Et puis, finalement, appréhender le produit, je pense que c'est bien pour l'avenir, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, Cyril. Et on a tenu à peu près les 1 heure et je suis plutôt content parce que je suis plutôt bavard, hein, tu l'as vu. Avant de nous quitter, Cyril, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver on va faire un petit truc. Tu sais, on a mis un bandeau de pub sur My Chromebook pour toi. On pourrait peut-être en parler un petit peu à ceux qui sont là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Bah, écoute, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, sur les deux canaux de diffusion vidéo que j'utilise principalement, c'est donc YouTube, chaîne YouTube avec des contenus longs. c'est pas forcément des contenus qui sont toujours simples, hein. Vous avez des cas d'usage qui font 12, 13, 14 minutes. Le dernier en date, c'est comment faire des mots fléchés ou des mots croisés ou des mots mêlés sur Google Sheets. C'est une manière ludique, finalement, d'apprendre 12 fonctions dans Google Sheets, hein. L'idée, c'est pas que vous repartiez avec votre grille de mots mêlés, même si ça peut être utile si vous êtes rédacteur en chef dans un magazine de votre école ou de votre village. Mais voilà, c'est vraiment ma manière d'apprendre. Ma conception pédagogique est toujours orientée sur des cas d'usage dans lequel on vient glisser discrètement de l'apprentissage des choses qui seront utiles forcément dans le quotidien professionnel ou pas. Donc ça, c'est YouTube. Il y a des shorts, un short que vous retrouvez soit sur YouTube, soit sur TikTok, hein. Je capitalise les sources sur plusieurs réseaux. Et donc, c'est uniquement YouTube et TikTok. Ça, c'est pour les contenus courts ou longs en mode gratuit. Et puis évidemment, je suis formateur professionnel, donc j'ai un business qui est derrière également, où je fais des formations en présentiel, en classe virtuelle, beaucoup aussi depuis le Covid. Mais le présentiel revient en force. Je passe mon mois de juin et mon mois de mai entre Strasbourg et Paris pour beaucoup de présentiel. Donc ça, c'est plutôt cool que ça revienne un petit peu. Et dernière modalité pédagogique, c'est tous mes contenus vidéo, mais la totalité. Il y en a quelques-uns parmi les spectateurs, je crois, comme Dominique qui a un accès offert, qu'il avait gagné il y a quelques temps. Il y a plus de 600 ressources sur la plateforme à mettre à jour, des contenus nouveaux très régulièrement et qui sont effectivement achetables si vous souhaitez vous former sur Google Workspace, que ce soit sur tout l'univers Google ou que ce soit sur un écosystème comme uniquement Drive partagé, la partie communication, Gmail, agenda, contact, chat, meet, ou la partie bureautique, doc, sheet, slide et form. Voilà, il y a vraiment tout le contenu. Il y a même du Data Studio, il y a du AppSheets qui va arriver également. Donc j'essaye de faire le Netflix de Google Workspace avec de l'IA qui va intégrer bientôt la plateforme. Voilà.
Donc regardez si vous êtes intéressé par tout ce que produit Cyril. Alors évidemment, tu mettras tes liens dans le Google Doc qu'on puisse le partager parce que je vais le copier après. Et regardez la bannière qu'il y a sur microbook.fr. Il y a une petite surprise pour tous ceux qui sont qui veulent s'améliorer et utiliser les différents outils que Cyril met à disposition. C'est une très 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 belle remise pour les lecteurs de microbook, du CKB Show, bref, tous ceux qui sont là. Allez-y, franchement. Franchement, merci pour la belle remise que tu nous proposes. C'est top en tout cas. Si vous voulez le soutenir, allez vous abonner à la chaîne de Cyril. De toute façon, un de plus, c'est toujours mieux. Allez mettre des pouces. Donc là, je vois, on est encore 14 à cette heure-là. J'ai pas 14 petits pouces en l'air sur la vidéo YouTube. C'est étonnant quand même. Donc, si jamais vous aimez ce qu'on a fait, si vous êtes encore jusqu'à la fin de l'épisode, allez cliquer sur un petit pouce, pousser la vidéo. Laissez un commentaire une fois que la vidéo est terminée en dessous de la vidéo pour nous poser vos questions. Je serai heureux de vous y répondre. Et si j'ai pas moi-même la réponse, j'irai la poser à Cyril qui vous y répondra très certainement. D'ailleurs, Cyril est aussi sur le salon Discord. Hein, donc, allez embêté de temps en temps, il n'est pas toujours là parce que lui, il a un vrai métier contrairement à moi. donc du coup, allez-y, laissez un commentaire. Si vous voulez vraiment nous soutenir, vous pouvez toujours aller sur patreon.com/microbook et puis on se dit de toute façon à dans 15 jours pour un nouvel épisode du CKB Show. Et Cyril, tu reviens évidemment quand tu veux, tu es ici à la maison, donc il n'y a pas de souci.
Avec plaisir, ça faisait très longtemps qu'on voulait le faire, c'est juste un problème de timing par rapport au dimanche soir, par rapport à enfant, pas enfant, mais avec grand plaisir pour participer avec d'autres co-animateurs que je regarde souvent en replay, mais que je ne vois pas en live.
Là, ils sont tous dans le chat, tu vois. Il y a Thierry, je pense qu'il y a Sylvain pas loin. Il y a Mister Robot aussi, donc ils sont tous là. Ils nous accompagnent. Merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao. Bonsoir.
Ciao, ciao.
Bye bye. Boop.